Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Je remercie le pasteur Marc. Ah, chez nous, c'est difficile de parler de Marc. Il faut dire pasteur Marc. Je remercie également l'église Oasis pour l'accueil et pour la confiance m'accordée. Le pasteur Marc m'a déjà présenté. Ça, c'est la famille Kamenabak. Ça, c'est famille Jean-Pierre et Elisabeth Kamenabak. Elisabeth, c'est mon épouse. Nos enfants sont là. Nous sommes une famille de 8 personnes. Je dis souvent que nous avons toute une équipe de volleyball. Nous avons 6 joueurs de terrain. Il y a une entraîneur et il y a le président du club. L'aîné, c'est celui qui est derrière Elisabeth, ça c'est Consolé, c'est ça son nom, Consolé Kamenabak. Et le deuxième, c'est celui qui est derrière Jean-Pierre, ça c'est Moïse Kamenabak. Le troisième, c'est celui qui est au milieu, entre Jean-Pierre et Elisabeth, il s'appelle Ernest Kamenabak. Et le quatrième, c'est la fille qui est juste entre Jean-Pierre et Elisabeth, elle s'appelle Exaucé Kamenabak. Le cinquième, c'est celui que Jean-Pierre porte. Il s'appelle Daniel Kamenabak et la cadette, c'est celle qu'Elisabeth porte. Elle s'appelle Mamie. Ça, c'est la petite Mamie qui était autrefois malade pour qui vous avez prié. Merci beaucoup. Le pasteur, merci. Voilà un peu notre famille. Le pasteur Marc a parlé un peu de ma présentation. De 2006 à 2016, je travaillais, j'étais très jeune. J'ai commencé à travailler comme traducteur pendant que j'étais encore célibataire. J'étais trop jeune vraiment. Et je me suis marié alors en 2007, une année après. J'ai travaillé comme traducteur de la Bible avec SIL International et Wycliffe Pays-Bas. Et ça, c'était pour la langue qu'on appelle la langue Lika. La langue Lika, sens en République démocratique du Congo. Ça, c'est ma langue maternelle. Depuis 2019, je suis pasteur au sein de la 16e communauté de l'Église du Christ au Congo. Je suis pasteur associé ou assistant. Je ne suis pas pasteur responsable parce que j'ai beaucoup d'autres responsabilités aussi. Depuis 2021, je suis enseignant de théologie à l'Université Shalom de Bounia, en RD Congo toujours. Et depuis 2023, je suis étudiant doctorat en théologie à l'ETEC en partenariat avec l'Université Laval. Merci. Oui, nous voulons parler sur le thème la foi et ses caractéristiques, manque, carence et abondance de la foi. C'est ça notre thème de ce matin. Et donc, la foi et ses caractéristiques, manque, carence et abondance de la foi. Je suis beaucoup plus enseignant que prédicateur. J'aime beaucoup plus enseigner que prêcher comme tel. Même si, à certains égards, ça peut signifier la même chose. J'aime beaucoup plus enseigner. Et ma prédication ici, c'est entrer dans la catégorie de ce que nous appelons à l'homilétique prédication thématique. Donc, il y a le thème qui est au centre et qui fait appel à d'autres versets bibliques ou d'autres références bibliques. Nous allons lire certains passages bibliques et je vais citer d'autres passages bibliques que je ne vais pas lire. C'est différent du sermon textuel, là où le passage biblique est au centre, comme ce que Marc a fait dans les 2-3 semaines passées. Il y avait toujours un texte où Marc s'est basé et il faisait appel à des implications sur ces textes. Mais pour ce sermon, c'est un peu différent. Alors, ce n'est pas le texte qui est au milieu, mais c'est le thème qui est au milieu. Et ça va faire appel à beaucoup d'autres références bibliques. Mais notre passage de référence, ce n'est pas passage clé, mais passage de référence. C'est Luc 17, 5, que nous lisons tous, qui dit « Les apôtres dirent, « Ô Seigneur, Seigneur, augmente nous quoi? La foi. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés que le Seigneur augmente ta foi? Merci, je vais prier pour la parole. Seigneur, nous sommes très heureux ce matin parce que nous sommes devant ta présence. Merci pour l'invitation, parce que tu veux nous parler. Parle-nous, instruis-nous, dirige-nous du début jusqu'à la fin de la partage de ta parole. Et que ton Saint-Esprit puisse régner au milieu de nous, à mettre les rois pour diriger toutes choses. Éloigne de nous le sommeil et la distraction. Fais en sorte que nous soyons tous ici présents, physiquement, mais aussi spirituellement. Et que tu puisses te glorifier à la fin des comptes, car chacun va tirer l'essentiel pour sa vie spirituelle au travers de ces messages. Sanctifie-moi qui le partage à ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Je commence par cette question. Qu'est-ce que la foi et pourquoi devons-nous nous entretenir là-dessus? Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour définir la foi, mais je vais vous orienter, comme vous le savez peut-être aussi, nombreux le savent bien. La définition de la foi, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, définit ce que c'est la foi. Je vais juste lire les trois premiers versets. Les trois premiers versets de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Les trois premiers versets nous disent ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Parole du Seigneur. Et si vous continuez à lire tous ces chapitres 11, ça va démontrer pourquoi est-ce que Abraham a été jugé père de la foi. C'est à cause de ce qu'il a fait. On va parler de beaucoup de personnes et de personnalités bibliques qui ont fait preuve de la foi dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques que j'ai annoncées. Mais avant cela, répondons à la deuxième question. Pourquoi devons-nous nous entretenir sur un tel sujet, la foi, qui paraît peut-être aussi, si pas vague, mais moins intéressant pour les uns? Le monde traverse actuellement des phénomènes qui dépassent les pensées humaines. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Il y a des situations que nous traversons qui sont plus que même Sodome et Gomorrah autrefois. Et si je me rappelle de mon pays, la RDC, comme le pasteur Marc l'a dit tantôt, là où il y a des tueries du jour au lendemain. Quand je suis les informations, quand je suis dans les groupes WhatsApp, ça ne passe pas un jour là où on n'a pas tué les gens, surtout à la partie est, à Ituri, là où ma famille est restée. Et moi, je me demande, que pensent tous ceux qui font cela? Et donc, je vous demande de prier pour le Congo. Pendant vos temps dans vos familles, n'oubliez pas de prier pour le Congo. La RDC est à guerre. Je ne sais pas s'il faut appeler guerre même, parce que la guerre, c'est la rencontre de deux forces. Mais lorsque vous venez, vous tuez quelqu'un qui n'a même pas la force, qui ne savait même pas que tu allais venir, il n'a aucune idée qu'il va mourir aujourd'hui, mais vous le tuez. Est-ce qu'il faut vraiment parler de la guerre? Je ne pense pas que ça, ce n'est pas la guerre, c'est tout simplement la violence, c'est tout simplement la méchanceté. Et ça va du mal au pire. Donc, c'est un sujet de prière. Et pas seulement le Congo, il y a beaucoup d'autres pays qui traversent les situations presque similaires. Et nous apprenons Mais en plus de cela, il y a d'autres situations où la foi chrétienne est vraiment ébranlée et même la vocation missionnaire est affaiblie à cause de ceci et cela. Donc chaque chrétien, dans son contexte, fait face d'une manière ou d'une autre de ces défis de l'affaiblissement de la foi. Et donc nous passons donc que ce thème, vaut la peine que nous puissions méditer là-dessus et que la parole de Dieu puisse nous encourager, ensemble, nous fortifier. Comme je viens de le dire, le chrétien à travers le monde, chacun, dans son contexte, se fait actuellement face aux différents enjeux qui ébranlent la foi et qui affaiblissent même la vocation missionnaire de nombreux. Il y a un problème avec la présentation. Le dernier point là, qui n'est pas apparu là, ça nous dit que la foi n'est pas statique. La foi n'est pas statique. Notre foi connaît souvent les hauts et les bas. Donc, ça dépend de la manière dont nous nourrissons notre foi. Et ça dépend aussi des circonstances que nous traversons. Tu peux traverser une foi qui va secouer, une situation qui va secouer la foi. Et vous allez remarquer peut-être que quelqu'un qui avait une grande foi, comme nous allons le voir, à un moment donné, à cause des circonstances, sa foi peut baisser. Et il y a même les autres qui peuvent à connaître des crises de foi jusqu'à devenir totalement athées, jusqu'à manquer carrément la foi. Mais grâce aux événements aussi, aux témoignages des autres, grâce à la parole de Dieu, grâce à la communion fraternelle comme nous venons chaque jour ici, ça peut aussi jouer positif. La foi peut connaître. Donc nous retenons que notre foi n'est pas statique. La foi peut connaître les hauts et les bas d'une manière ou d'une autre. Parlons alors de ces caractéristiques de foi. Il y a premièrement manque de foi. C'est quoi le manque de foi? Le manque de foi, comme nous voyons dans Hébreux 11 et 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et donc le manque de foi, c'est tout simplement ce qu'on appelle la crédibilité. Celui qui n'a pas la foi, c'est un incrédule. Et je pense que il n'y a pas un incrédule dans cette salle. Je pense bien. Parce qu'un incrédule, un athée, ne peut même pas venir ici. Et s'il vient ici, ce n'est pas par conviction, ça sera par curiosité. Ou bien, à moins que ce soit Dieu lui-même qui l'appelle. Donc, il y a cette catégorie de gens qui sont des incrédules, qui n'ont même pas la foi. Donc, qui sont des athées, à d'autres termes. Et je pense qu'il n'y en a pas ici dans cette salle. Mais s'il y en a, je voudrais que celui-là va de sortir. Venez voir le pasteur et tu dois te confesser pour que tu deviennes parmi ceux qu'on appelle les croyants. Ça, c'est la première catégorie. Les gens qu'on appelle les incrédules, ce sont les gens qui n'ont pas la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais attention, il y a une nette différence entre croire à Dieu, tel qu'il est écrit dans Jacques 2,19, et accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a une nette différence entre croire à Dieu et accepter le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel. Croire à Dieu, selon Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et il faut quoi? Il tremble. C'est pour dire que si tu crois seulement que oui, je crois qu'il y a le Dieu, Dieu existe, c'est lui qui a créé les cieux de la terre. Bon, Jacques dit que tu fais bien, parce que même les démons aussi les croient. Mais jusque-là, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus. Ça, c'est un aspect. Tu es dans la catégorie des personnes qu'on appelle les croyants. Et il y a les trois religions ici d'Abraham. il y a l'islam, il y a le judaïsme, il y a le christianisme. On nous appelle des religions monothéistes, c'est-à-dire nous croyons à un Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous tous, nous croyons à ce Dieu et on nous appelle les monothéistes. Mais il y a une différence entre un chrétien et un musulman. Il y a une différence entre un chrétien et un croyant du judaïsme. C'est à partir de ce deuxième aspect, accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est maintenant Romains 10 à 11 qui le dit. D'ailleurs, ça commence à partir de Romains 19. Parce que Romains 19 dit, c'est à faire ça quoi? C'est à, si tu crois que Dieu est le Seigneur Jésus-Christ, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et la suite du verset est là, à partir du verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Quiconque croit en lui. Ça, c'est le deuxième volet de croire. Et deuxième volet de celui qu'on appelle croyant. Nous ne sommes pas tout simplement des croyants, mais nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants en Christ parce que nous confessons le Seigneur Jésus-Christ. En plus de cela, il y a manque de foi ou carence de foi d'abord, il y a carence de foi ou peu de foi. Le Seigneur Jésus a plusieurs fois reproché ses disciples pour la carence de leur foi. Les disciples de Jésus, à chaque fois qu'ils étaient avec Jésus, il les a plusieurs fois reprochés à cause de la carence de leur foi. Et j'ai dit au départ que nous voulons parler de manque de foi, carence de foi ou peu de foi et grande foi. Chacun pourra peut-être se situer. Si tu es dans quelle catégorie? Est-ce que tu es dans la catégorie de manque de foi? Moi, je ne manque pas la foi. J'ai la foi. Mais ma foi, souvent, elle est parfois petite. Et il y a des temps où elle peut grandir, elle peut devenir grande, selon les circonstances, comme je l'ai dit. Et je pense que ça peut être la même chose pour les uns et les autres dans cette classe, dans cette salle. Il y a certains passages où le Seigneur Jésus est en train de reprocher ses disciples à cause, n'est-ce pas, de leur carence de foi. Il y a par exemple Matthieu 8, 26. Il s'agit ici de lorsque ils traversaient le lac et il y a eu la tempête. Les apôtres ont commencé à trembler. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Pourquoi avez-vous peur? J'ai de peur de foi. Alors, il se leva, menaça le vent et la mer et il eut un grand calme. Il appelle ses disciples-ci gens de peur de foi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils tremblaient devant la tempête sur le lac. Et la suite du passage, ça nous dit que les disciples étaient stupéfaits. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais qui est ce monsieur? À qui même la mer, même la tempête, lui obéissent? Il y a également Matthieu 16 et 8, ça c'est lorsqu'ils étaient dans le désert. Pierre va venir et dire à Jésus, est-ce que tu peux dire à ces gens de prendre des dispositions? Parce que nous sommes dans le désert, comment est-ce qu'on va les nourrir? Et ils ont commencé à s'inquiéter. Et la Bible dit que Jésus les a connus, dit pourquoi raisonnez-vous à vous-même, gens de paix de foi, si vous savez que vous n'avez pas pris du pain? Il continue à appeler ses disciples les gens de paix de foi. Si les disciples avaient paix de foi, c'est sûrement que nous, dans nos églises, il y a aussi beaucoup de gens qui ont paix de foi. Matthieu 14, 30. Ça, c'est maintenant l'histoire de Pierre avec Jésus. Pierre voit Jésus en train de venir, se promenant sur l'eau. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Seigneur, est-ce que je peux te suivre? Jésus dit, mais oui, venez. Et lui aussi a commencé à marcher sur l'eau comme son Seigneur. Mais à la fin des côtes, il a commencé à se noyer, il a crié, Seigneur, au secours. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Les doutes, les caractéristiques des hommes de peu de foi. Les doutes. Pierre a douté. Pierre s'est demandé, mais comment? Est-ce que c'est moi, Pierre, vraiment qui marche comme ça? Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais comment? Je marche sur les eaux. Il a commencé à se poser des questions. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé aussi à faire quoi? À se noyer. Et le Seigneur l'a secouru. Et Jésus dit, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Il y a beaucoup d'autres passages où Jésus est en train de reprocher les gens à cause de leur peu de foi. Passons à la dernière caractéristique qui est l'abondance de foi. Y a un problème? Ça sera réglé? Dernier point, c'est la grande foi. C'est là que nous allons chiter. Grande foi. Merci pour la technique. La grande foi. Il y a des personnes à travers les deux testaments de la Bible qui ont fait preuve de la grande foi. Que nous n'allons pas nous attarder beaucoup sur ça. Il y a par exemple Abraham, parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans mentionner avant toute chose Abraham, parce que c'est lui le père des croyants. Donc c'est lui, le tout premier croyant, Abraham. Mais je ne peux pas parler d'Abraham dans les quelques minutes qui me sont données. S'il faut parler de la foi d'Abraham, il faut tout un sermon à part. Alors je me réfère seulement pour dire que Abraham est parmi, et c'est lui le père de tous ceux-là qui ont cru, tous ceux-là qui ont fait preuve de la foi. Il y a Abraham, il y a, on peut parler par exemple de Moïse. Moïse a fait preuve de la foi. Marie, mère de Jésus, on ne peut pas s'en passer de Marie, mère de Jésus, mais qui est cette femme folle qui peut accepter faire un bébé sans connaître un homme. Mais Marie a accepté. Ça, c'est une grande foi. Même médicalement, par là, ce n'est pas démontré. Ça fait partie de la grande foi de Marie. Et comme résultat, nous avons reçu le salut du Seigneur Jésus-Christ, né de cette dame, Marie. Il y a le centenier romain, dans Luc 7:9, qui a fait preuve d'une grande foi. Nous allons le voir. Et il y a beaucoup d'autres personnes. Mais ici, nous allons seulement parler de ces centeniers dont je viens de faire mention. Nous allons parler de Job et nous allons aussi parler de, pour terminer, nous allons parler un tout petit peu de Daniel. Nous prenons ces trois pour appliquer notre message de ce matin. Commençons avec la grande foi de Job. Commençons avec la grande foi de Job. La grande, ça c'est d'abord le centenier, la grande foi du centenier romain. Waouh, il est là. Son serviteur était malade. Il a envoyé des gens pour demander à Jésus s'il peut guérir son serviteur. Et Jésus a pris, il est allé. Mais quand Jésus était en route, il a envoyé des gens pour raconter Jésus, pour dire, dites à Jésus qu'il ne prenne pas la peine de venir ici. Il peut juste dire un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Il peut juste dire un mot et mon serviteur sera guéri. Et selon les commentaires, quand vous lisez ce passage, ça c'est comme c'est caché là, je vous rappelle le passage. Ça c'est Luc. Le passage c'est dans Luc. Le passage, c'est dans Luc 7, verset 9, la partie que j'ai pris, mais l'histoire, c'est dans le chapitre 7, Luc chapitre 7, c'est là qu'il y a l'histoire en entièreté. Mais j'ai pris seulement un seul verset, là où Jésus s'est étonné de la foi du Satanien. Alors ici, le Satanien envoie déjà pour dire à Jésus qu'il ne prenne pas la peine même de venir chez moi. D'abord, c'était pour deux raisons. La première raison, c'est que le Satanien ne se sentait pas digne que Jésus entre chez lui. Pourquoi? Parce qu'il se disait, mais moi je suis étranger, lui c'était un Romain, je ne suis même pas juif, et moi je suis pécheur. Comment le Saint, le Fils de Dieu peut entrer chez moi? Ça c'était la première raison. La deuxième raison, c'était qu'il avait confiance à Jésus, il savait que Jésus pouvait même agir à distance. Il envoie déjà pour dire, dites-lui seulement de dire un mot. Et maintenant, quand il a raconté lui-même Jésus, il a dit à Jésus, je sais que moi aussi, j'ai des gens qui sont à mes services. Je suis autorité militaire. Quand je dis à mes subalternes, va, il va. Si je dis reviens, il revient. Fais ceci, il le fait. Je sais que toi aussi, tu as ce pouvoir. Tu peux dire juste un mot et mon serviteur sera guéri. Et comme résultat, lorsque Jésus attendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Wow! Même en Israël, Jésus dit qu'il n'a pas trouvé une si grande foi. Quand je lisais, je me suis dit, est-ce que Jésus n'a pas exagéré ici? Peut-être si c'était... Si c'était dans notre contexte, on allait dire non, ça, ce n'est pas vrai, parce que nous voulons défendre ce qui vient de chez nous. Comment toi, Jésus, tu vas dire que toi qui viens de Jérusalem, tu n'as pas vu une telle foi même chez toi? Mais ici, Jésus qui est Dieu, il est juste dans ce qu'il dit. Il est en train de démontrer à combien de fois le Satanien s'est montré comme quelqu'un qui avait vraiment une grande foi. Il avait vraiment une grande foi. Et comme résultat, la Bible nous dit que au même moment, quand Jésus parlait, quand il a dit « à cause de ta foi, ton serviteur est guéri », c'est à ce moment-là même que le malade était guéri. Amen. La grande foi du centenier, qui n'était pas juif, mais lui qui était romain, un étranger, un païen. La grande foi de Job. Job a été exposé par Dieu lui-même pour que la gloire de Dieu soit manifestée. À 12. Et dans Job, chapitre 6, et chapitre 1, verset 6 à 12. Je ne vais pas lire, mais je vais essayer de m'imaginer un peu la scène. Ici, la Bible dit que Satan s'est promené et il dit, non, je vais faire un peu accrocher chez Dieu, je vais le saluer. Il est venu voir Dieu. Dieu lui dit, mais comment Satan, quelle va t'amener? Oh, non, je me promène. Alors, je me suis dit que je dois venir te saluer. Et Dieu dit, ah, comment ça va la terre? Non, ça va bien. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Vous voyez, c'est Dieu même qui a ouvert la brèche. C'est Dieu même qui a exposé Job. Satan n'a pas parlé de Job. Peut-être qu'il était allé seulement saluer Dieu. Mais c'est Dieu qui a exposé Job. C'est Dieu qui commence à poser la question à Satan. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et Satan dit, mais oui, il est là, ton ami là est là. Mais est-ce que tu sais que s'il t'obéit, s'il est fidèle à toi, est-ce que tu sais que c'est parce que tu l'as béni? Dieu dit, non, ce n'est pas ça. Job, c'est mon ami. En dehors de ces bénédictions, Job, c'est mon ami. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il m'obéit toujours. Et Satan dit, non, écoute Dieu, mes respects. Essaye juste de retirer toutes ces bénédictions que tu lui as données. Tu vas voir s'il ne va pas te maudire le même jour. Le débat continue entre Dieu et Satan. Alors Satan Dieu qui était gentil ce jour-là envers Satan, il va dire à Satan, bon, si tel est le cas, comme tu insistes, vas-y, je te permets d'aller prendre tout ce qui est à Job, mais laisse seulement quoi? Son âme. Wow! Quelle méchanceté! Et Satan est venu, il a dépouillé Job de tout ce qu'il avait. Il a commencé par ses enfants et ses filles et ses garçons, ses filles, tous partis. Ses mini et gros bétail partis. Toutes ses fortunes parties. Et après, Satan a attaqué maintenant le physique. Il y a juste l'image illustrative. Le physique de Job. Job a souffert de l'ulcère, a souffert tellement à tel point que sa femme lui a dit, mais pourquoi tu ne peux pas maudire ce Dieu? Maudis-le comme ça, tu vas mourir et ça sera tout. Mais la Bible dit que Job n'a jamais offensé Dieu ni à parole ni en action. Job n'a jamais fait ça. Mais en dépit de tout ce qui lui avait, tout ce qui lui était arrivé, Job ne pécha point contre Dieu, ni en parole, ni en action, et il eut confiance à Dieu. Job 13, 15, il dit, « Même s'il me tit, je lui ferai confiance. » Ça, c'est Job qui dit. Je lui ferai confiance. Alors, c'est quoi notre leçon par rapport à l'histoire de Job? Comme je l'ai dit tout au départ, que c'est Dieu qui a exposé Job. Dieu peut aussi t'exposer pour que sa gloire soit manifestée. Quelle que soit ta droiture, quelle que soit la manière dont tu connais prier, quelle que soit la manière dont tu sers les gens, mais si Dieu dit qu'il doit t'exposer pour que sa gloire soit manifestée, il va le faire. Il va t'exposer pour que les gens sachent que dans ces siècles, il y a des pasteurs qui obéissent le Seigneur. Il y a des pasteurs qui peuvent dire, est-ce que veux-tu qu'on te tue parce que tu es croyant en Jésus-Christ? Il dit oui. Jésus, Dieu peut faire ça. Et quand on va te tuer parce que tu as accepté que je suis chrétien, là Dieu dit amen. Il y a encore des gens qui m'aiment. Dieu peut t'exposer pour que sa gloire soit manifestée. Mais dans Hébreux, la Bible dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Mais nous sommes souvent incapables de résister pour des petites tentations. Et 1 Corinthiens 10, 13 nous dit encore que notre Dieu est fidèle. Il ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de notre force. Et à chaque fois qu'il y a tentation, lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer le chemin pour que nous puissions nous en sortir. Il est fidèle. Il est fidèle. Mais lui-même a exposé Job parce qu'il voudrait vraiment que Satan sache que Job, c'est son ami. Alors, ce n'est pas souvent bon que ton nom soit cité dans la cour des grands. Ça, c'était l'histoire de Job. La grande foi de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Wow. Ça, c'est l'histoire de Daniel et ses amis. Ici, ils sont devant un fait accompli parce que le roi Nebuchadnezzar leur exige d'adorer son statue. J'ai d'autres versions ici, du verset 18, parce que Louis Ego a dit, « Sinon, sache que, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Cela signifie quoi? J'ai par exemple Tob. Verset 18, Tob dit, « Même s'il ne le fait pas, même s'il ne nous sauve pas, nous savons que notre Dieu va nous sauver. » Tob dit, même s'il ne nous sauve pas. Et Français Koura dit, est à supposer qu'il ne le fasse pas. Amen. Donc, la grande foi de Daniel ici, dans sa grande foi, Daniel sait que Dieu a le pouvoir, il peut le sauver. Mais dans sa grande foi, il sait aussi que Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, il n'est pas obligé de le sauver. C'est pour cela que Daniel dit que Dieu va nous sauver de la fournaise que tu as préparée là. Mais dans sa grande foi, il dit, même s'il ne nous sauve pas parce qu'il est souverain, il peut ou ne pas nous sauver.
il peut accepter que nous puissions mourir.
Mais sache que nous n'allons pas nous incliner devant Dieu. Ça, c'est quelle leçon encore pour nous. Nous devons savoir que Dieu est souverain. Dieu n'est pas obligé de répondre à tout ce que nous lui demandons. Et c'est ça notre difficulté, nous les intercesseurs. Souvent, nous pensons que si nous prions pour un problème donné et que la réponse est négative, nous allons penser que Dieu nous a oubliés. Nous allons peut-être commencer à se poser des questions. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que la prière ici a été bien faite? Non. La grande foi prouve aussi à suffisance que Dieu est souverain. Il est indépendant dans ses décisions. Dès la Bible dit qu'il n'a ni conseiller. Si nous prions, il peut nous répondre positivement à ce que nous lui demandons, mais dans sa souveraineté, il peut aussi nous répondre négativement. Et ça, c'est ce que Daniel a reconnu. Daniel a reconnu pour dire que je sais que mon Dieu est souverain, il va nous sauver d'être tes mains. Mais s'il arrivait qu'il ne l'a pas fait, nous croyons aussi que nous n'allons pas t'adorer, nous n'allons pas adorer ta statue. Ça, c'est une dimension de foi. On appelle ça la face B de la foi. Pour dire que Dieu est souverain. Je dis souvent à mes étudiants, pasteurs, si vous priez pour un malade et que le malade meurt, tu n'as pas échoué. Tu as fait ton travail, mais Dieu a décidé parce que c'est lui qui est souverain. Alors c'est pour dire que si la personne est guérie, ce n'est pas toi. Toi, tu as tout simplement imploré la grâce, tu as intercédé, mais Dieu a guéri, Dieu a agi. Mais si Dieu prend la personne, c'est-à-dire que c'était ça sa volonté. N'est-ce pas la Bible dit que quand un croyant meurt, c'est la fête au ciel. Alors si le ciel a déjà planifié une fête, vous voulez annuler cette fête? Amen. Hein? La grande foi doit nous apprendre à comprendre que Dieu est souverain. Prions-le sincèrement. Mais s'il nous répond négativement, remercions-le parce que c'est sa volonté. Et ça, c'est ce que Daniel a fait avec ses amis. Daniel, dans sa grande foi, sait que Dieu est capable de le sauver avec ses amis de la fournaise ardente du roi Nebuchadnezzar. Toujours à cause de cette grande foi, Daniel sait aussi que Dieu est souverain. Et donc, il n'est pas obligé de le sauver. Il peut ou ne pas le sauver parce qu'il est Dieu. Si nous avons une grande foi, il nous poussera à comprendre que Dieu est souverain et qu'il n'est pas obligé à toujours répondre positivement à ce que nous lui demandons. Ça fait partie de ce qu'on appelle la grande foi. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont déçus quand ils commencent à prier pour un problème et que ça n'a pas abouti. Dieu ne m'a pas écouté. Il se décourage et il devient foutu. S'il était dans le groupe d'intercession, il quitte l'intercession. S'il était dans le groupe de chorale, il quitte la chorale. Non, ce n'est pas ça. Persévérer. La Bible dit prier, ça cesse. Il faut continuer à prier. Et quand nous prions, les résultats ne sont pas toujours positifs. Dieu peut répondre. D'ailleurs, la Bible dit qu'il peut répondre avant que nous ne puissions même prier. Il peut répondre pendant que nous prions et il peut répondre plus tard. Plus tard. Ça, c'est l'histoire même de Zacharie avec son épouse Élisabeth qui demandait fils quand ils étaient encore trop jeunes. Mais Dieu n'a pas voulu leur donner le fils à ce moment-là parce que Dieu attendait le temps pour que Jean-Baptiste puisse naître au moment où il allait préparer l'arrivée de Jésus. Il a dit, non, vous là, vous attendez, ce n'est pas encore le temps. Et maintenant, quand l'ange va dire à Zacharie, lorsqu'il est en train d'offrir le sacrifice au Seigneur pour dire que le Seigneur a exaucé ta prière, il me dit, mais ça, c'est quelle prière encore? Est-ce que moi, j'ai prié Dieu? Qu'est-ce que j'ai prié à Dieu? Il a prié Dieu, que Dieu lui donne un enfant, ça faisait des années. Et c'est à ce moment-là que Dieu va lui dire, que allez dire à Zacharie que j'ai exaucé sa prière. Sa femme Élisabeth deviendra enceinte. Waouh! Dieu est souverain. Il est souverain. OK, application et conclusion. Notre foi n'est pas statique, elle peut connaître les hauts et les bas suivant les circonstances. L'exemple est celui de Simon Pierre à qui Jésus a dit dans Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froments. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Autrefois, Simon, quand Jésus demande, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent que je suis ce que tu es. Simon prend la parole et dit que, d'abord, tout le monde dit non, les gens disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu as l'air d'un prophète décédé, ça fait longtemps, mais qui est revenu dans la vie. Et il dit, maintenant, vous que dites-vous que je suis? Pierre prend la parole, il dit, tu es le Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va de Pierre, il dit, très bien. Il dit, tu es Pierre, le roc, et sur toi, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que la chose que tu as dit là, ce n'est pas le corps qui t'a révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu le Père. Donc, ce jour-là, Pierre a été vanté par Jésus. Mais quand on est venu arrêter Jésus, Pierre a pris son couteau, il a arraché l'oreille d'un certain Marcus. Et Jésus a remis l'oreille. Et qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? Derrière moi, qui? Satan. Un nouveau nom qu'on donne à Pierre, Satan. Satan qui, Pierre qui autrefois avait une grande foi à cause de l'épreuve. Il est devant les sécurités, il voit que son chef est en sécurité, il doit sauver son chef. Il prend le couteau, il coupe l'oreille de l'aide des militaires. Et maintenant, ici, c'est l'échange autour de la table du Seigneur. Donc le dernier repas. Lorsque Jésus est en train de dire qu'il y a l'un parmi vous qui va me livrer. Mais Pierre dit, moi, je suis prêt à mourir avec toi. Je suis prêt à aller avec toi, même à prison, même à la mort. Et c'est à ce moment-là que Jésus va répliquer pour dire à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froments. Mais, j'ai prié pour toi. Waouh, ça c'est ce que j'aime. J'ai prié pour toi. Jésus dit que j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille point et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pourquoi Jésus dit que quand tu seras converti? C'est pour dire que quand la foi défaille, il y a nécessité d'une conversion. Et ça, c'est ce que Pierre a fait. Quand Pierre a compris qu'il a renié son Seigneur, il est tombé à sanglots, il a pleuré, il a dit, « Seigneur, sauvez-moi. » Il a fait même recours à ses ancêtres. Il a dit, « Nos ancêtres t'ont parfois offensé, mais tu le pardonnes. » Parfois qu'il revenait à toi. À chaque fois qu'il demandait pardon, tu le pardonnais. « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché, je t'ai renié. » Et c'est ça. Et c'est comme ça qu'il dit à Pierre que j'ai prié pour toi, afin que quand tu vas te convertir, que tu affermisses tes frères, quand tu remarques que la foi a défaillé, tu dois te convertir. Ne dites pas que non, ça arrive, mais ça va passer. Non, tu dois te convertir. Et ça, c'est ce que Pierre a fait. La conversion est très nécessaire lorsque notre foi a défailli. Nous devons savoir que Satan nous réclame toujours. Ça, c'est l'application. Satan nous réclame toujours. D'une manière ou d'une autre, comme il a réclamé Job, comme il a réclamé les apôtres de Jésus autrefois. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père, où il est en train d'intercéder pour nous, comme les apôtres autrefois. Demandons-lui d'augmenter notre foi et soyons prêts à nous repartir lorsque notre foi a défailli. Parole du Seigneur. Est-ce que Marc peut venir prier pour la parole?
Une bonne leçon pour nous tous, n'est-ce pas? Père de gloire, je veux vraiment te remercier pour cet enseignement. Et avec tous ces exemples qui viennent des Écritures et aussi ces exemples qui viennent du monde dans lequel nous vivons et où les chrétiens sont éprouvés. Ça m'aide, Seigneur, ça nous aide à vraiment regarder cette échelle où se situe ma foi. Est-ce que j'ai pas de foi? Et Jésus, tu m'appelles à ce moment-là à la repentance. Ou est-ce que je suis quelqu'un qui a la foi parce que j'ai donné ma vie à Christ, mais j'ai besoin d'évaluer où j'en suis. Peut-être que je suis en train de vivre une carence de foi. Peut-être que je suis sur un mauvais chemin en ce moment. Je suis en train de faire un compromis avec... Comme Pierre a fait un compromis avec son couteau. Donc, je demande, Seigneur, que tu aides chaque personne qui est ici à se mettre devant toi, à se repentir si c'est nécessaire, et à accepter aussi ta souveraineté, à accepter aussi que tu as le droit, Seigneur, de dire au tentateur, vas-y, j'ai confiance que cet ami, il ne va pas me renier, il va tenir bon. Tente-le. Et moi, je ne vais pas le tenter, mais je vais le fortifier. Le ou la, parce que c'est la même chose pour les sœurs, les frères. Oh, Père, merci pour cette leçon. Et merci parce qu'elle nous prépare pour ce qui s'en vient dans notre vie. Parce qu'on, ça ne sera pas facile pour personne, mais on va voir ta gloire. Alors, Père, on te prie au nom de Christ. Amen.